Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
Mario Dumont.
Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
Cube Radio.
Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее.
Vladimir Poutine a blâmé l'Occident aujourd'hui pour la guerre en Ukraine dans son discours. Un discours qui était attendu là durant les commémorations du 9 mai sur la Place Rouge. Selon Poutine, je vous résume un peu, là, son armée s'est engagée pour défendre la patrie russe face à la menace de son voisin. Il a souligné aussi que tout doit être fait pour éviter l'horreur d'une nouvelle guerre globale. Et qu'encore une fois, il a accusé donc l'Ukraine de néonazisme tout en disant que c'était une offensive qui était une riposte préventive et non une attaque.
Il appelle ça une guerre défensive.
C'est une drôle de notion de guerre. Ben, des fois, l'attaque est la meilleure défensive. Ouais. Hein. C'est comme au hockey. Non, mais sincèrement, là, c'est une journée vraiment où la propagande était à son maximum.
Mais pas
en
de
Russie.
Nouvelles. Moi, je retiens quand même qu'il n'y a pas... Il n'a pas utilisé, contrairement à ce que plusieurs avaient craint, il n'a pas utilisé la journée du 9 mai pour lancer une nouvelle mobilisation, un nouveau message, des nouveaux objectifs militaires ou quoi que ce soit.
C'était appréhendé, là.
Oui. Il a répété son... Parce que l'histoire est absurde, mais il l'a déjà dit. Il a représenté les faits de la même façon que c'est une opération... C'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale qui a été forcée de faire ça à cause de l'Occident, pour protéger la Russie contre l'Ukraine puis de la menace néo-nazie. Il a répété les mêmes histoires, là.
Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, c'était à se demander comment on peut interpréter son discours. Voici la réponse de Charles-Philippe David, le cher Raoul Dandur.
Mais ce que ça nous dit, c'est que il est déjà prêt à nous blâmer, disons les choses franchement, nous, les alliés de l'Ukraine, pour toutes les difficultés que l'armée russe rencontre en Ukraine. Donc, à peine un discours voilé sur, au fond, les difficultés que rencontrent la Russie et les forces armées russes en Ukraine. Et il s'en est pas vraiment caché. Et je pense que l'idée de dire, ben, faut blâmer quelqu'un hein, pour le fait que ça va pas bien et que ce soit nous. Ben, c'est pas nécessairement une bien bonne nouvelle parce que, bien sûr, ça va contribuer un petit peu plus à embourber ce conflit, voire peut-être à une certaine escalade. On verra.
Poutine n'a pas non plus, cependant... Bon, il y a pas... Écoute, tout ce que, qui avait été envisagé, il puisse annoncer d'abord le déclenchement d'une guerre parce qu'officiellement, il ne s'est jamais dit en guerre contre l'Ukraine. Il est dans une mission défensive.
Il n'y a pas de déclaration de guerre. On a bombardé...
Oui, mais il aurait pu faire une déclaration de guerre officielle, même si c'est loufoque à ce moment-ci, c'est un peu ridicule, mais il aurait pu le faire même. Occasion donc de lancer en déclarant une guerre une grande mobilisation pour aller chercher plus de soldats, pour aller chercher dans le pays, le recruter ou mobiliser ou conscrire plus de citoyens. Il a aussi évité de... Parce que comme c'est le jour de la victoire, il aurait pu comme établir un peu les critères de... Qu'est-ce que la Russie veut comme victoire? Qu'est-ce que la Russie recherche en Ukraine? Qu'est-ce que la Russie souhaite accomplir? Puis quand ça va être fait, on va cocher victoire. Ça non plus, il est pas revenu là-dessus. Donc, c'est quand même une journée... Moi, ça fait drôle de dire ça, d'utiliser le verbe sobre, parce que c'est les grosses parades militaires, puis c'est comme un gros show à grand déploiement.
Sobre dans son discours.
Sobre dans son discours et sobre, c'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé la journée ni pour barber l'Ukraine, ni pour faire à Mariupol un défilé militaire là, qui aurait été vraiment cynique et baveux. Il ne l'a pas utilisé pour changer le courant de la guerre. Il a répété ses mensonges habituels. Il les a répétés, évidemment, prioritairement pour son peuple. Ils ont fait la parade militaire habituelle. Il a essayé de faire... Après ça, il a essayé de faire un parallèle, parce que si le 9 mai est le 9 mai, là, pour les gens qui sont moins familiers, c'est vraiment la signature de la reddition. Là. C'est l'Allemagne qui capitule comme telle. D'ailleurs, il y a une chose curieuse. Hein. Tu sais que l'Allemagne avait capitulé le 7 mai à Reims, en Champagne, en France. Et Staline était furieux. Là. Staline disait, mais voyons, là, c'est pas en France que ça se passe, c'est vraiment à Berlin. Nous, l'armée russe, on prend Berlin, on est en train de prendre Berlin. Et donc, il a exigé qu'il y ait une deuxième cérémonie de signature de la reddition de l'armée allemande. Donc, les Allemands ont signé leur capitulation une deuxième fois, le lendemain du 7 mai, le 8 mai. C'est-à-dire, pourquoi on retient le 9 mai? Parce qu'ils l'ont fait,
leur décalage.
C'est ça, le décalage horaire. L'heure effective, c'était 23h01. Et donc, à l'heure de Moscou, c'était 1h01. Mais dans la nuit, on était passé minuit, on était rendu le 9 mai. Et comme c'est l'armée russe, comme c'est les Russes qui étaient un peu comme les héros là, de la prise de Berlin, ben, eux ont retenu que pour eux, c'est arrivé un 9 mai. Et c'est le 9 mai qui est devenu le jour de la victoire. Une longue histoire pour dire que aujourd'hui, Poutine, dans sa façon de le présenter, essayait de faire un parallèle. Tu sais, on a débarqué l'Allemagne nazie, etc., mais je pense pas. Les camps de concentration, puis tout ce qu'on a trouvé dans l'Allemagne nazie, on n'a rien de trouvé de tel en Ukraine. Là. Ce qu'on a trouvé, c'est des producteurs de grains qui allaient faire leurs semences, puis là, on a détruit leur machinerie puis leurs silos. Tu sais, c'est pas... Il n'y a aucun parallèle possible, aucun parallèle sérieux qui soit possible.
Ouais. Zelensky aussi a lancé un message pour le jour de la victoire. Il a publié une vidéo en soirée en disant que bon, l'Ukraine ne céderait aucun morceau de territoire à la Russie. Puis sur le terrain, ben, les frappes ont recommencé aujourd'hui, entre autres à Odessa. 4 missiles qui sont tombés dans la région ce matin. Ça s'est poursuivi à Mariupol aussi en fin de semaine, où là, on a évacué là, femmes et enfants qui étaient à l'intérieur. Mais selon Zelensky, la Russie aurait proposé de laisser sortir les soldats ukrainiens, mais juste s'ils acceptaient de se faire prisonniers. Et ce que la Russie veut faire, c'est de se servir d'eux ultimement comme monnaie d'échange, mais ce que l'Ukraine refuse de faire. Maintenant, sur le front diplomatique, Mario, deux choses.
Oui.
Aujourd'hui, le président des États-Unis, Joe Biden, a signé devant les journalistes une loi qui va permettre d'accélérer l'envoi à l'Ukraine de tout ce qui est équipement militaire. Et pour le faire, il a réactivé un dispositif datant de la Seconde Guerre mondiale. C'est le Ukraine Democracy Defense Land Lease Act of 2022.
Mais quand j'ai vu la nouvelle, j'ai dit que c'est quand même sauté. On réactive une loi de la Deuxième Guerre mondiale. Puis quand tu réfléchis, tu te dis, ben, il n'y a rien de plus logique. On est revenu. Poutine nous a replacés dans une barbarie, des images, une sorte de guerre, une façon... qui remonte, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'époque, c'est là-dedans qu'on est replongé, là, les guerres de tranchées et tout ça. Fait qu'il nous a replongé dans la Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est pas, de ce point de vue-là, c'est pas absurde, même si c'est vieux là, dans le temps, c'est pas absurde qu'on repige dans les lois de la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'on est.
Ah, exact. Puis on s'est basé exactement sur ce programme-là pour créer celui de 2022. Et ça m'amène à te parler de Justin Trudeau qui, a fait une visite surprise du côté d'abord de Kiev. Il est apparu en fin de semaine, là, dimanche, aux côtés de Volodymyr Zelensky, a annoncé un autre 50 millions en matériel militaire. Quand on regarde depuis février, le Canada a envoyé 245 millions en aide humanitaire, 131 millions en équipement militaire défensif. Tu vas me dire qu'on est bien loin des milliards des États-Unis, mais bon,
bien loin, oui.
Et M. Trudeau s'est rendu aussi à Irpin, une ville dévastée par des combats intenses.
Ça, c'est bien.
Oui. Je te le fais entendre, d'ailleurs, les commentaires du premier ministre Trudeau.
En cette journée anniversaire de la victoire en Europe, Vladimir Poutine est en train de faire honte à la mémoire aux millions de Russes qui ont lutté, qui ont fait des sacrifices pour vaincre le fascisme, pour assurer la liberté pour l'Europe et pour le monde.
Oui, mais voilà. Mais la visite de M. Trudeau, c'était bien, là. C'était correct, c'était souhaitable que ce soit fait. Le symbole de la réouverture de l'ambassade, le drapeau canadien ici à l'ambassade, c'est quand même un message fort, parce que ton ambassade vient dire, ben moi... Je reconnais l'importance de ce pays-là. Il est en guerre, mais il est mon allié. Je veux qu'il demeure, tu sais, dans l'esprit là, d'un Poutine qui voulait prendre le contrôle de l'Ukraine. Le Canada vient dire non. Moi, dans mon esprit, ça doit demeurer un pays indépendant. L'Ukraine est un pays indépendant avec une existence internationale essentielle, etc.
Je sais pas si on va augmenter les heures d'ouverture, par exemple, pour aider le monde.
Ouais, ça c'est pas certain.
Ça, mais en fait, une autre affaire.
On parle d'une réouverture progressive. Là, je pense pas que c'est ouvert beaucoup là, avant quelques jours. À mon avis, ça va être très limité ce que ça va avoir comme ouverture réelle. Mais bon, il reste que c'est beaucoup de symboles. Puis tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que Est-ce que l'apport, est-ce que l'appui concret là, en termes d'argent, d'armes, etc. du Canada est à la hauteur des superlatifs qu'on utilise dans le langage? Peut-être pas.
Ce que tu viens d'entendre, Mario, ça s'est passé.
C'est une scène pas très jolie, là.
Ah non, je vais te la décrire, là. Ça se déroulait sur un terrain synthétique de Dollard-des-Ormeaux, donc à Montréal, pendant un match de l'équipe Saint-Laurent qui recevait le Celtics du Haut-Richelieu, OK? Là, survient un but égalisateur, semble-t-il, et là, il y a un spectateur qui est en beau maudit.
Un but égalisateur, mais on se comprend qu'il n'y a pas... Il n'y a pas un million à l'enjeu, des jeunes de 14 ans, c'est pas...
Oui, c'est des jeunes de 14 ans là qui jouent dans la Ligue de développement provincial. Okay? Alors là, t'as le spectateur qui est en beau maudit, commence à engueuler l'arbitre de soccer, descend jusque sur le terrain, et là, l'arbitre, qui semble, bon, est assez jeune, on a appris qu'il avait 17 ans par la suite, repousse l'homme, l'éloigne une première fois, et l'homme réplique en lui donnant un coup de poing en plein visage. Là, il y a plusieurs parents qui voient ça. Un des parents intervient, plaque l'individu agressif au sol, on arrête le match à ce moment-là. Écoute, c'est une scène qui a été captée, qui circule sur les réseaux sociaux abondamment depuis la fin de semaine. Et ça vole pas haut, là, sincèrement. Là. C'est un match de la Ligue de développement provincial, ce serait pas plus chic qu'au FC Montréal, là, remarque. Là. Mais et là, ben, la famille du jeune en question est en réflexion. Est-ce qu'ils vont porter plainte? Le jeune de 17 ans, lui, penses-tu vraiment que ça va y tenter de retourner arbitrer un match de soccer?
Tu sais que c'est déjà un gros problème de recruter des arbitres dans tous les sports, là, mais c'est un problème majeur de recruter des arbitres, de trouver des gens qui sont pas énormément payés, là, des gens qui ont le goût de se faire engueuler pour ce montant d'argent-là. Mais c'est drôle parce que ça arrive la semaine après un grand rapport sur le hockey. Oui. Puis un rapport sur le hockey où quand même on se dit, ouais, la culture du hockey, la culture des arénas, puis on met dans, tu sais, en vrac, là, on parle des problèmes, puis c'en est un, ça, tu sais, il y a au moins deux incidents durant l'hiver où des arbitres ont été frappés, on se dit, ouais, ben c'est ça, c'est la culture du hockey, ben, il semble bien que c'est pas juste la culture du hockey, là, que... Oui, peut-être le hockey, c'est un sport où il y a particulièrement, on a particulièrement toléré des choses dans les arénas, mais ça peut se produire identique dans d'autres sports. Je sais pas qu'est-ce que les ligues vont faire à terme, parce que si tu veux, à un moment donné, c'est que tu vas devoir protéger tes arbitres. Là, t'es rendu, tu protèges les arbitres contre les joueurs, faut que tu protèges les arbitres. Est-ce qu'on nous a dit, est-ce que l'histoire dit que c'est un parent? On parle d'un, j'ai vu les rapports de presse, on parle d'un spectateur.
Pour l'instant, je sais pas.
On précise pas que c'est un parent. Ouais. C'est quand même, possible, bien possible que ce soit un parent. Ouais. Mais bon, je pense que les ligues vont finir par avoir un rôle de dire on embauche des arbitres, oui, on les paye, mais on met en place des mécanismes plus sérieux pour les protéger, là. Mais c'est sûr que... Tu dis quand t'es en danger d'arbitrer du soccer, t'es en danger pour ton intégrité physique d'arbitrer du soccer de ce niveau-là, de jeune de 14 ans.
Il y en a qui vont pas bien.
Et même si tu faisais une erreur, là, même si t'avais mal vu ou que t'avais pas vu exactement ce qui s'est passé, qu'il y avait un hors-jeu, que t'étais pas bien placé, que t'étais pas sûr au pouce près qu'il y avait un hors-jeu.
C'est du sport. On joue au soccer. Un jeu.
Ouais.
Tu sais?
Non, mais... Pas de millions en jeu.
Mais non, pas du tout. Moi, j'ai pratiqué plein de sports. Moi, plus jeune, j'ai joué au baseball, j'ai joué au soccer, j'ai fait du ski alpin de compétition. Il me semble que c'était moins pire. Il me semble que...
Tu sais que Guy Lafleur a donné une réponse. C'est une entrevue qui a repassé là, lors de son décès. On a réentendu plusieurs des entrevues. Et c'est une entrevue... Je me souviens plus laquelle. J'ai-tu entendu à la radio, à la télé? Je me souviens plus. Je me souviens très bien de la réponse. On lui a demandé... Tu sais, il a joué pas de casque là, beaucoup plus longtemps que les autres. À une époque où tout le monde avait un casque. Mm-hmm. Puis maintenant, on connaît les commotions cérébrales, on connaît les dangers. Puis la question lui était posée, mais vous n'avez pas l'impression que vous mettiez en danger en portant pas de casque? Puis sa réponse, ça a été, ouais, un peu, mais vous savez, dans ce temps-là, il y avait le respect.
Et voilà.
Tu dis, ouais, c'est ça, à cette heure, on a des casques, des règlements, des suspensions. Ben oui. Mais à l'époque, il y avait le respect. C'est-à-dire que, il dit, les joueurs, donnez pas des coups de bâton dans la face, donnez pas des coups de bâton sur la tête, là. Bon, OK. Ça,
Mais il a tellement raison. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est ça. T'sais, aujourd'hui, les équipements sont plus légers, sont plus solides. Parlons du hockey. Au soccer, t'as des protèges tibia, là. Mais au hockey, c'est ça. Les mises en échec ont rarement été aussi intenses, aussi violentes. On voit des coups à la tête. Fait que c'est correct qu'on fait une réflexion pour le hockey. On connaît l'importance du hockey au Québec, mais le soccer aussi, c'est un sport hyper populaire chez les jeunes.
Mais dans ce cas-ci, on dit le jeune est en réflexion, on ne sait pas s'il va porter plainte. Là, on entend que ça, c'est porter plainte à la police, aux criminels pour agression. Mais je ne sais pas, la Ligue fait quoi dans ce cas-là? Est-ce que la Ligue pourrait... Tu sais, parce que l'arbitre n'est pas juste un individu, là. L'arbitre, il est au service de la Ligue. Est-ce que la Ligue pourrait porter plainte à exclure définitivement ce spectateur-là? Je ne sais pas, mais est-ce que la Ligue n'a pas, dans un cas semblable, une responsabilité d'entreprendre aussi des démarches? Il me semble que oui.
Oui, alors c'est une très, très bonne question. Aujourd'hui, il y avait manifestation de camionneurs un peu partout au Québec. Là, c'était le cas au centre-ville, d'ailleurs, à Montréal aussi. Ailleurs, ça se faisait parfois devant les bureaux de circonscription, dans les centres de service du MTQ. En gros, ce que les camionneurs réclament, c'est un ajustement des tarifs de transport en vrac. Parce que là, on sonne l'alarme avec la hausse du prix du carburant pour ce qui est du... Tu sais, on faisait le saut là, comme automobiliste là, à 2,25 $ si on faisait le plein en suprême. Ben du diesel, là, c'était 2,50 $2,60 Et là, ben avec cette hausse de prix-là, on juge au niveau de l'association que le tarif fixé par le ministère des Transports, c'est irréaliste. C'est désuet dans ce contexte-là. Là.
Et là, on parle surtout des camionneurs en vrac, là, qui, par exemple, qui vont travailler pour le ministère des Transports ou des constructions de routes, vont transporter le sable, la pierre, peu importe. Ils disent, mais là, on travaille pour le ministère des Transports, on travaille à perte, là.
Ouais. Et là, il y a des camionneurs qui ont raconté un peu leur histoire aujourd'hui. Voici ce qu'ils avaient à dire, suivi de la réaction du ministre des Transports, François Bonnardel.
Le fuel a augmenté de 100%, mais on n'a jamais eu la hausse pour compenser pour le fuel. De plus, il faut penser aussi aux pièces, les pneus, l'huile, tout ça a augmenté. Augmenté en double.
L'année passée, c'était correct. Le profit, c'était bon, mais cette année, mon camion est à vendre, puis regarde, je ne mets pas capable de le vendre parce que le fuel est trop cher.
Imaginez-vous, on travaille 5 jours, et là, parfois, on sort le week-end. Ça coûte 1 200 à 1 500 $ de plus pour faire les pleins de notre camion par semaine. Donc ça, à la fin du mois, ça donne au moins 5 000 $ de plus.
On est très conscient du problème, du coût de l'inflation, de l'augmentation du coût du carburant. On est en négociation avec eux, on va régler le problème d'ici peu.
Bon, il y a une discussion, mais le problème va se poser à beaucoup d'endroits parce que le diesel, là, dans le camionnage, ben c'est une partie du coût de tout ce qui est transporté là, à l'épicerie ou ailleurs, de tous nos achats, de un. De deux, si vous vous promenez dans le Québec un peu plus rural ces jours-ci, vous allez voir des tracteurs là, qui sont en train de faire les semences, les préparations de sol, épandage d'engrais, semences, etc. Des tracteurs qui roulent au champ, mettons, de 5h30 du matin, parfois jusqu'à la brunante, puis des fois, on en fait même un petit peu à noirceur quand il fait beau, on en profite. Pas si vous le savez, là, mais sur une journée, on en brûle plusieurs litres de diesel. Là. Ça veut dire que les coûts de production, c'est des productions céréalières, des productions maraîchères, à mon avis, le coût de rouler ton tracteur vient de doubler. Les engrais chimiques ont doublé aussi. C'est... Bon, eux aussi demandent une aide au gouvernement, mais à terme, c'est le consommateur qui va finir par ramasser tout ça. C'est ça l'effet cumulatif de l'inflation, là. L'inflation, bon, on la voit, nous, sur les tablettes. On la voit, nous, on se plaint à la pompe, là. L'inflation, le prix de l'essence est plus cher. Mais le prix du diesel, là ça devient un intrant. Ça devient un peu dans le carburant qui sert comme intrant dans toutes sortes de productions. Ben là, tu crées d'autres inflations. Là. Les prix vont augmenter pour refléter là, ces hausses de prix de carburant. Dans le cas des engrais chimiques, le gaz naturel est un des intrants. Je pense que le gaz naturel, il n'a pas doublé de prix. Je pense qu'il a triplé. Je suis pas sûr que j'en mets assez. Je pense que sur 1,5 an, il a quasiment quadruplé. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs... plusieurs types de métiers là, qui travaillent avec des véhicules et qui vont avoir de la misère à joindre les deux bouts et vont forcément refiler la facture au suivant.
Tout savoir en 24 minutes.
On apprend que la qualité des services éducatifs pour ce qui est des maternelles 4 ans est pas plus élevée que ce qui se passe dans les CPE. C'est les conclusions de la toute première étude québécoise qui a permis de comparer directement là, D'un côté, les maternelles de 4 ans, de l'autre, les CPE. Et en gros, ce que les chercheurs disent, c'est qu'il y a peu de différence là, entre les deux au niveau de la qualité des interactions. Une recherche qui est basée sur 4 séances d'observation d'une demi-heure dans 45 classes de maternelle 4 ans, dans 45 groupes d'enfants dans les CPE. Et en gros, si je te résume, les maternelles 4 ans et les CPE ont eu un score moyen à élevé au niveau du soutien émotionnel de l'enfant, de l'organisation de la classe aussi. Des résultats un petit peu plus faibles pour les deux milieux en ce qui concerne le soutien à l'apprentissage. Et ce sont des résultats qui sont comparables aussi à ceux qui sont obtenus un peu partout à travers le monde. Le ministre de la Famille a réagi aujourd'hui, Mathieu Lacombe, en disant, ben finalement, en bout de ligne, les CPE ont rien à envier aux maternelles 4 ans. Comment tu interprètes, toi, les résultats de ça?
Ben en fait, j'ai parlé à la chercheure plus tôt en ondes. C'est assez intéressant parce qu'elle, elle reconnaît qu'elle s'est limitée à étudier les interactions. Donc, le soutien, la façon de faire le soutien, personnel, pédagogique, etc. Ça répond pas à la question. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui surinterprètent un peu, là, qui disent, bon, ben les CPE, en termes de préparation, par exemple, des jeunes pour aller au primaire, c'est aussi bon. C'est pas tout à fait ce que ça dit, parce que la chercheure dit non, on n'a pas étudié les résultats. Mettons un jeune qui a 4 ans aura un retard de langage, puis là on veut le préparer pour l'école, on veut qu'il arrive en maternelle ou en première année le plus capable possible de suivre le groupe. Est-ce que la maternelle 4 ans lui en fait faire plus, lui fait faire plus de progrès, plus de rattrapage? Est-ce qu'on est mieux outillé, mieux équipé parce qu'on a une enseignante qui a des études universitaires? Techniquement, on a accès à des professionnels en orthopédagogie et autres. Ça n'a pas été mesuré. Donc, cette étude-là, elle nous parle d'interaction. Donc, on dit dans les deux cas, les interactions avec le personnel sont semblables. Mais elle nous parle pas. Elle dit pas le contraire non plus. Elle dit pas que les maternelles 4 ans sont meilleures. Mais elle dit, ben, la chercheure dit que c'est une autre étude qu'il faudrait faire éventuellement. Donc, c'est une étude qui mesure, dans le fond, le processus d'interaction, mais qui va pas directement mesurer les résultats.
Ouais. Donc. On apprenait, Mario, en fin de semaine, parce que mine de rien, bon, la campagne électorale au provincial, ça va venir vite là, l'automne prochain. La première chose qu'on va voir, la session parlementaire va se terminer dans quelques semaines. Les députés vont partir dans leur circonscription cet été, vont faire du travail terrain, puis cet automne, on va revenir, on va être en campagne. Et là, ben chez les libéraux, il y a plusieurs noms là, qui ont confirmé qu'ils ne revenaient pas. Le dernier en liste, c'est pas une surprise, là, en fin de semaine, c'est Pierre Arcan. Et là, aujourd'hui, on a su qui allait succéder à Pierre Arcan dans Mont-Royal. C'est Michel Sept-Lacoué, une avocate de formation. Et déjà, écoute, elle n'a pas perdu de temps, là. Je te résume un peu ce qu'elle a dit. Selon elle, la loi sur la laïcité de l'État et la réforme en cours de la loi 101, ça va trop loin. Ça brime les libertés individuelles de certaines communautés, de certains de nos concitoyens. Elle dénonce aussi l'usage de la clause dérogatoire dans ces deux cas, mais elle reconnaît quand même que le français recule au Québec. Une grosse journée?
Oui, oui. Mais je commençais par dire qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Bon, le départ de Pierre Arcan, ça, c'est le nombre de départs au Parti libéral qui finit par faire par faire peur un peu, là, par faire donner un sentiment.
Mais il reste qui, là?
Il n'y en a pas tant que ça qui ont annoncé qu'il se représentait, là. Ouais.
On va surveiller ce que Carlos Leitao va faire.
Après moi, il va quitter. Si tu me le demandes, je pense qu'il va quitter. C'est sûr. Puis Kathleen Vail aussi, je pense qu'elle va quitter.
Ah oui.
Donc là, tu vas avoir une majorité. Ça va être du jamais vu, là. Tu vas avoir une majorité. T'as plus de gens dans un caucus qui sont. Bon, ben c'est là que j'allais dire. Pierre Arcan, on peut pas le mettre, mettons, dans le même bateau que Paul Robitaille qui l'a annoncé vendredi. Pierre Arcan est 70 ans. Ou il arrive à 70 ans. Je sais pas ce qu'il a.
Il est indépendant de fortune.
Mais il est allé en politique, là. Écoute, il a fait 15 ans, là. Il n'a pas comme fait un petit passage éclair en politique. Il a fait 15 ans. Durant ces 15 années, il a été ministre. Il a été un ministre économique important. Il a été député. Il a connu le pouvoir. Il a connu l'opposition. Il a même connu être chef du parti, là, intérimaire, mais quand même, il a connu la fonction d'être le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, là, d'être chef de parti, chef de l'opposition. Donc, tu sais, ce qu'on a dit, faire le tour du jardin, lui, il l'a fait. Donc, 15 ans plus tard, ils disent, moi, j'ai fait ma part. J'ai vécu pleinement l'expérience politique. J'ai contribué. J'ai donné. Et je m'en vais faire autre chose. Ça me paraît tout à fait logique, là, tout à fait dans l'ordre des choses. Paul Robitaille, bien, c'est vrai, elle était la relève du parti. Elle vient d'arriver, elle a à peine un mandat de fait. Elle fait partie de la dernière cuvée de recrues avec Marois Risky, avec Enrico Ciccone. même si elle a des projets importants, bon, l'Ukraine, etc., à les faire ailleurs, ça reste un... Tu fais le saut, tu dis, OK, il n'y a pas juste ceux qui sont là depuis longtemps, fatigués, qui quittent. Il y a aussi des membres de la relève qui se découragent en chemin puis qui ferment les livres. Donc, c'est la somme de tout ça qui place Madame Anglade dans un certain embarras. Bon, celle qui remplace Michel Tsitlakoué, je sais que les journalistes l'ont fait beaucoup parler aujourd'hui, c'est peut-être un peu mêlé. On comprend qu'elle est vraiment pas nationaliste. Mais elle dit que le français, elle reconnaît quand même qu'il y a un problème avec le français.
Oui.
Mais tout ce qui est affirmation du Québec, tout ce qui s'appelle nationaliste, pour elle, ça semble être de la chicane, ça semble être mauvais. Là. OK? Mais pour le reste, je veux dire, pas... pas se leurrer, là. C'est pas une candidature. Elle est connue dans le monde de grands bureaux d'avocats à Montréal, donc connue dans cet univers-là. C'est la conjointe de Michael Fortier, qui était un sénateur conservateur, quand même bien connu dans la région de Montréal.
Mm-hmm.
Elle était conseillère municipale à Ville-Mont-Royal. Elle a voulu elle s'est présentée à la mairie, voulu se faire élire mairesse de Ville-Mont-Royal. Elle a été défaite l'automne passé. Mais, sincèrement, je pense pas que dans le grand public... Je pense pas que dans le grand public, son nom résonne. Peut-être d'où vient Ted Fernandes, que là, les gens l'ont suivi davantage, qui est un peu plus connu. Mais c'est pas... Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une candidature vedette, là? Une belle candidature, un profil intéressant, mais je pense que ça va prendre un petit peu plus que ça. Si Dominique Anglade veut nous impressionner puis faire oublier tous ceux qui quittent, ça va nous prendre un petit peu plus que ça.
Tu sais que l'anneau, mon précieux, l'anneau géant d'Ivanhoé Cambridge, là, qui est censé là faire son apparition au-dessus de l'entrée de l'esplanade de la place Ville-Marie au coût de 5 millions. Tu sais, on nous avait vendu ça comme étant un anneau fabriqué là ici là à Trois-Rivières. Ben finalement, on apprend aujourd'hui qu'une bonne partie de cet anneau-là va être fabriqué aux États-Unis et non au Québec. Les travaux de fabrication...
En fait,
de
tout
moulage,
est américain, là. La matière première...
L'acier.
C'est hein, ça.
Provient des États-Unis. Après ça, tout ce qui est travaux de fabrication, de moulage, de cintrage des tubes, tout ça s'est réalisé dans au moins deux États américains. Et là, finalement, on envoie tout ça à Trois-Rivières.
On fait le rond.
Puis on l'assemble à Trois-Rivières.
On fait le rond.
On fait le roi à Trois-Rivières. Alors là, ce qu'on dit du côté d'Ivanhoé Cambridge, pour se justifier, si tu veux, c'est qu'aucune compagnie québécoise ne répondait à leurs besoins. Mais là, il y a des entreprises d'ici qui disent que, ben non, ça aurait pu être fait ici. C'est le cas de Jean Labadie. Lui, il est PDG d'industrie Chaux Canada. Et voici ce qu'il avait à dire là-dessus.
Disponible en acier inoxydable aux États-Unis. Au moment où ils en ont fait la demande, c'est possible. Mais c'est aussi possible de les fabriquer ici, nous-mêmes, si c'est vraiment le matériel qui était choisi à un moment donné. Mais il y a d'autres matériaux aussi, comme l'aluminium, qui aurait très bien pu être choisi, ou des composés, matériaux composites, qui auraient probablement aidé au niveau des poids et au niveau de la durabilité, bien ça va de soi.
L'aluminium, la moitié moins pesant, meilleure durabilité face aux intempéries, un produit québécois, me semble qu'un anneau... Tu sais, un anneau qui est déjà mal aimé, là, dans une époque où tout le monde est sensible à l'achat local, on dirait qu'ils font exprès pour qu'on l'aime de moins en moins. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.